Gloire à Dieu. Très heureux d'être ensemble, de vous revoir et de nous accueillir les uns les autres comme le Christ nous a accueillis. Nous voulons dire bienvenue à celles et à ceux qui rentrent de vacances. Espérons votre voyage s'est bien déroulé. À nos jeunes mariés aussi, qui rentrent de voyage. Et on se réjouit de vous revoir tous, partis en vacances ou autres. Nous voulons souhaiter la bienvenue à des bien-aimés. Merci de vous lever à votre place, qu'on puisse vous accueillir. Y a-t-il des personnes qui... Oui. Je vais commencer. Que Dieu vous bénisse. Enchanté de faire votre connaissance. Que Dieu vous bénisse. Vous avez des frères et sœurs aussi, là, différentes nationalités. Oui. Bonjour, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La Guadeloupe, bienvenue. Il y a d'autres frères et sœurs qui sont de la Guadeloupe aussi. Oui. Bienvenue, Martinique, Guadeloupe. C'est une église cosmopolite. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Soyez-vous. Ah oui, vous vouliez vous présenter. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Dieu soit béni. Comme vous le savez, nous avons eu cette semaine notre temps de retraite spirituelle. Nous nous sommes retrouvés dans la prière, dans le jeûne, dans la salle au sous-sol. Vous avez aussi jeûné, prié dans votre demeure, sur votre lieu de travail. Et nous remercions Dieu pour ces moments bénis. Nos réunions cette semaine, plus de 150 personnes sont passées, y compris le mardi soir pour ce temps. Ça s'est passé dans la paix, la grâce, une grâce toute particulière. Et nous avons réalisé que le Seigneur nous visitait d'une manière particulière. Il eut aussi deux dons spirituels et nous bénissons Dieu de tout notre cœur. Vous avez lu sur votre programme, votre pasteur vous convainc de rejoindre à la salle au sous-sol pour un jeûne et prière le mercredi 21 septembre. Et puis ensuite, je vous invite pour le 23, la veillée de prière. Donc, je voudrais qu'on puisse, une journée, si vous le faites chez vous, c'est bien. Si vous le faites à votre travail, c'est bien. Si vous venez ici m'entourer, c'est bien. Nous nous entourons tous les uns et les autres. Gloire à Dieu. Le message... c'est qu'ai-je abandonné? Je voulais reprendre la suite. Qu'ai-je abandonné? Qu'était la suite normale par rapport à ce que nous avons vu dimanche dernier, c'est ce que nous aurions pu, ce que nous avons pu abandonner, qu'il nous fallait retrouver. Ayant travaillé plusieurs heures, c'était sur Éphèse, le premier amour, les premières œuvres, et après avoir partagé, écrit, j'ai réalisé que ce n'était pas la pensée de Dieu. Et puis vendredi soir, je dis au Seigneur, dans ma prière, seul avec lui-même, avec les frères et sœurs, Seigneur, quelle est ta pensée ? Samedi était une journée très chargée pour moi. Quelle est ta pensée, Seigneur ? Et le Seigneur m'a donné sa pensée. Ça m'arrive très rarement, mais je n'ai pas développé ni développé mon message. Mais il est dans mon cœur. Il est dans ma tête. Et ce que j'ai dans ma tête et dans mon cœur, je vais essayer de vous le communiquer avec la grâce de Dieu. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 13e, mais ne pensez pas que c'est lugubre, hein. Deuxième livre des Rois, chapitre 13e, verset 14e. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, non point roi de Juda, mais roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit « prends un arc et des flèches. » Elle prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. » Une flèche de délivrance contre les Syriens. Et puis ensuite, il y a au verset 18e, Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu, etc. etc. » Et au verset 20e, Élisée mourut et on l'enterra. Ne perdez pas votre page, mais dans le livre de la Genèse, au chapitre 49e, verset 1er. Jacob appela ses fils et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous. Écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Et puis, le verset 33e. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Amen. Ces deux lectures ne sont pas deux lectures lugubres pour un culte d'adoration, mais l'Esprit de Dieu va nous aider. Élisée, malgré son âge, il est ce palmier plein de sève et verdoyant, portant du fruit en sa vieillesse, psaume 92e, verset 13e à 16e. Quel que soit l'âge, nous avons cette sève spirituelle et nous sommes verdoyants et nous portons du fruit dans notre vieillesse. Et pour vous, les jeunes, vous êtes dans votre jeunesse et vous portez vous aussi du fruit dans votre jeunesse. Et pour nos enfants qui sont dans leur classe, ils portent aussi du fruit. Sur son lit de mort, Élisée lui-même, quelques 60 ans auparavant, lorsque le prophète Élie lui avait fait part de son enlèvement vers la gloire, lui réclamant la double onction de l'Esprit, maintenant nous n'avons plus besoin de demander le double puisque nous sommes dans la plénitude. Bien sûr que cet homme savait que le manteau allait tomber, il fallait le relever, le manteau. Mais ce que l'on remarque, ce qui est aussi important, c'est qu'Élisée, 60 ans auparavant, il avait pu dire aussi « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Quelle était cette signification ? Eh bien, qu'allons-nous devenir sans toi ? Qu'allons-nous devenir sans toi ? C'est comme si un enfant, un jeune est là devant le lit d'un être cher qui va partir, va dire « Papa » ou « Maman, que vais-je devenir sans toi ?» Tu vas partir, cela va faire un grand vide, mais que vais-je devenir sans toi ? Et lorsque le roi arrive, les choses sont différentes. Élisée est atteint de la maladie dont il mourut. Donc le manteau n'est pas tombé. les choses sont différentes. Et le roi d'Israël est en train de pleurer sur l'homme de Dieu. Ses larmes ruissellent. Ce n'est pas protocolaire. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi ? Homme de Dieu prophète, Dieu ne peut-il pas te guérir de ta maladie ? Mais Dieu est celui qui est souverain, et dans sa souveraineté, nous ne pouvons pas lui donner de conseils. Ce qui est merveilleux, c'est que l'homme de Dieu va lui montrer que même s'il part, Dieu est celui qui règne et qui vit. Je ne sais pas où se trouvait l'arc. S'il se trouvait dans la chambre de l'homme de Dieu, je ne sais pas, peu importe. Vous savez que l'association La Colombe, quand il y avait les colonies, il y avait des arcs. Alors les ados faisaient de l'arc. Et puis les animateurs avec eux faisaient de l'arc. C'était très agréable de faire de l'arc. Il dit au roi, prends un arc et des flèches. Et bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit, mais ouvre la fenêtre et tire. Et l'homme de Dieu lui dit, c'est une flèche de délivrance. C'est une flèche de délivrance et tu vas maintenant avoir la victoire sur tes ennemis. Lorsque nous étions au Tchad en 69 en brousse, j'avais acheté un petit carquois avec des flèches. Et puis les flèches étaient un peu empoisonnées. Mais c'était pour quelque chose de souvenir. Et puis, revenant, j'ai dit, non, il faut mettre des flèches non empoisonnées. Et j'ai bien fait parce que notre fils, qui à cette époque avait 2 ans, il a trouvé cette flèche et il s'était blessé. Donc, il aurait pu mourir à cause de cette flèche empoisonnée. Dans notre carquois, nous n'avons point de flèche empoisonnée. Aucune flèche n'est empoisonnée. Et ce matin, bien-aimé, dans la foi, je voudrais que, par la foi, dans aucune salle, ni même dans un endroit, dans la salle du sous-sol, il n'y a aucun arc, et aucune flèche. Il faudrait que chacun d'entre nous puisse dans ses pensées avoir comme l'arc, avoir aussi des flèches dans son carquois. Les flèches spirituelles, les armes spirituelles, les armes défensives, les armes offensives. Mettez dans votre tête l'arc. Mettez cela dans votre tête, l'arc. Et mettez vos mains sur l'arc là. Voyez, je ne vais pas vous faire imiter. Et que les mains de Jésus se mettent sur vos mains. Et que l'onction de Dieu Et si vous n'êtes pas baptisé dans l'Esprit Saint, le Seigneur peut le faire ce matin. Vous avez besoin peut-être de remporter des victoires personnelles sur votre vie à vous. Il y a des choses qui vous déplaisent comme il déplaise à Dieu. Vous avez besoin de triompher. Et tirer par la foi. Et confesser que c'est une flèche de délivrance. Non pas sur votre frère, non point sur votre sœur. Ça va faire des blessés, c'est tout. Et on ne va pas remporter de victoire. Mais tirons sur ce qui a triomphé sur nous. Et dans cette période où nous avons et nous recherchons Dieu, vous ne savez pas ce qui se passait dans mon cœur. Mais j'avais hâte de voir ce mois de septembre arriver. Le programme était fait déjà depuis plusieurs mois. Nous avions travaillé à aller en profondeur dans cette restructuration. D'autres prenant certains services et autres. De nous retrouver dans la présence de Dieu. De faire cette rentrée. Et avec la grâce de Dieu, nous lui en sommes reconnaissants. Jeunes gens, jeunes filles, prends ton arc. Prends ton arc, parce que demain, c'est le retour, le chemin du collège, du lycée, primaire, bientôt, université, ou travail. Il faut que tu aies tes flèches. Il faut que tu manifestes sa foi. Il faut que tu te détermines pour Jésus-Christ. Il faut savoir s'engager avec Jésus. Avoir cette foi personnelle que les parents communiquaient, qui est une foi magnifique, mais il faut avoir cette foi personnelle, propre foi, où les expériences vont être là et sont là. Il faut tirer la flèche de délivrance. Il faut la tirer. Bien-aimé, le prophète a tiré. Tiré. Demandons au Seigneur, que nos vies soient renouvelées dans le Saint-Esprit. L'actualité plus que déconcertante. Mais l'Église de Jésus-Christ, elle doit aller de l'avant. Nous ne pouvons pas nous laisser aller à la crainte et à autre. Il faut tirer notre flèche contre la crainte, qui est un ennemi destructif, qui fait un travail qui ronge comme un cancer notre âme. Il faut triompher. Et nous devons triompher, parce que Jésus nous donne cette pleine victoire. Il nous donne cette grâce. Et puis, nous pourrions multiplier les exemples sur les flèches de délivrance. Le prophète, l'homme de Dieu, dit au roi, « Maintenant, prends des flèches et frappe contre terre. » Contre terre. Et la Bible nous dit qu'il frappa trois fois et s'arrêta. Et l'homme de Dieu fut irrité parce qu'il dit qu'il fallait frapper plus que tout ça. T'aurais terrassé l'ennemi, mais là, tu ne le terrasseras pas entièrement. Vous avez remarqué que dans notre langage, on est terrible, nous, des fois. Je ne sais pas si ça se dit autrefois, peu importe, mais petite réunion, petite prière, petite ceci, petite église, petite maison, petit ceci. Mais si on retirait ce mot petit, ça ne serait pas formidable? Vous ne trouvez pas? Petit, toujours petit. Et des fois, on a des enfants, ils sont tout petits, et ils grandissent, ils nous ont dépassés. À ne pas dire petit. Pas dire petit. Je dis petit à mes petits. Et il y a un de mes petits-enfants qui a 14 ans, il dit « Mais papy, je ne suis pas petit. » Je lui dis « Non, c'est une marque d'affection. Vous êtes mes petits. » Il dit « Il fallait tirer plus foi. » Comme Jésus dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Est-ce que parfois nous ne tirons point qu'une fois? Est-ce que parfois nous ne tirons pas que deux fois? Est-ce que parfois nous ne tirons pas que trois fois? Moi, je me souviens un jour d'une jeune fille. Elle avait été élevée dans une famille chrétienne. Et pour un grand nombre, vous la connaissez. Et puis, je passe sur tous les détails. Elle a 18 ans. Et elle apprend qu'elle a un cancer dans un endroit de son corps. Elle sort de chez le professeur et elle sait que c'est fini. Je vais la voir. Et puis, je lui dis, Nathalie, tu ne vois que ton cercueil. La vie est finie pour toi. C'est ce que tu vois. Et puis le jour de Noël, étant monitrice, c'était sur la ferme un peu là. Et il y avait le serpent qui venait pour détruire. Et tout à coup, elle a pris son bâton. Elle a tapé sur le serpent, là, pour le faire fuir. Je ne l'ai pas fait. Mais j'avais presque envie de dire, devant tout l'auditoire, « Tape encore plus fort !»« Tape encore plus fort !» Mais je ne pouvais pas le dire, c'était à Noël. Mais ça n'aurait rien donné de dire « Tape plus fort !» Vous comprenez ? L'ennemi de nos âmes, il vous empoisonne, il nous empoisonne, il essaie de nous déstabiliser, mais nous avons la victoire par Jésus-Christ. Alors tirons des flèches et Dieu va nous donner la victoire. Dieu va nous donner la victoire. N'ayons pas peur de tirer avec notre cœur. Et la Bible nous dit ensuite, Élisée mourut et on l'enterra. Dieu recueille les serviteurs de Dieu. Mais Dieu n'enterre pas l'œuvre que les serviteurs de Dieu font. Et Dieu n'enterrera jamais son œuvre parce que c'est la sienne. Flèche de délivrance. Jeunes gens, jeunes filles, dans votre tête, flèche de délivrance. Il y a peut-être dans votre bibliothèque des livres qui vous tendent. Il faut tirer la flèche de délivrance. Il faut remporter la victoire. Il y a peut-être aussi le tabac, il faut remporter la victoire. Il y a peut-être l'addiction du jeu et autres. Il faut remporter la victoire. Il faut remporter la victoire. Nous devons remporter la victoire. Nous devons remporter la victoire parce que Jésus nous donne la victoire. Jésus est celui qui est tout puissant. Je reviens à ma deuxième lecture. Vous avez remarqué que Jacob, il ne lui reste plus que quelque temps, c'est Genèse, chapitre 49. Il appelle ses fils. Et ses 12 fils n'ont pas toujours été faciles. Hein. On ne se souhaite jamais d'avoir des enfants comme lui, excepté Joseph et Benjamin. Et voici que il va parler, Jacob, il a réuni ses fils. Et puis, chose extraordinaire, Jacob dit à Joseph, « Le Dieu tout-puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. » C'est l'homme qui a été marqué parce qu'il partait de la maison avec un passé, il n'avait pas d'avenir, mais cet homme arrivant à Luz pour dormir à la belle étoile, ayant comme oreiller une pierre, est arrivé avec un passé, mais il est reparti avec un avenir. Et je voudrais ce matin que vous repartiez avec non point votre passé, mais repartir avec un avenir. L'avenir de Dieu. Il dit « Dieu m'a béni ». Et sa vie a été marquée par ça. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Chacun d'entre nous a eu sa rencontre avec Dieu. Chacun a eu son Luz de Bethel. Chacun a entendu la voix de Dieu. Chacun a été fortifié par la voix du Tout-Puissant. Jamais je ne pourrai oublier ce que Dieu a touché mon cœur, les paroles prophétiques, la voix audible, le ministère. Jamais on peut oublier ça. Jamais on peut oublier parce que le Seigneur nous a marqués. Il est vrai que Pharaon n'avait pas connu ce Joseph. Il voulait l'extermination du peuple. Mais ces hommes ont été sages. Ils n'ont pas convoqué le Pharaon pour dire au roi Pharaon, chapitre 49, verset 1er, on va te dire ce qui va arriver dans la suite des temps. Non, non. On ne te dira pas ça. Parce que Jacob sait qu'ils vont devenir une multitude de peuples. Jacob sait que c'est eux, ses fils, qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Donc il va y avoir multiplication, multiplication, multiplication. Et bien aimé dans la foi, Jacob révèle à Joseph qu'un matin, ils vont posséder la Palestine dont les Juifs possèdent, les Israélites, qui le sont le grand conflit, vous savez où. Des siècles, des millénaires après. Je crois que ce qui est important, c'est je vais t'annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jésus se révèle à Jean, écris les choses que tu as vues, celles pour les églises et celles pour les temps à venir. Et le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit pour le monde, mais il a été écrit pour l'Église. Pas dans un esprit de curiosité, mais vraiment pour que nous puissions tenir le coup, être debout par la foi. Bien sûr que Dieu va nous délivrer de la colère à venir. Il va nous prendre. Mais les suites des temps, nous les connaissons parce que le Saint-Esprit, parce que Jésus, de son ciel de gloire, les a révélées à l'apôtre Jean qui est en résidence surveillée à l'âge de 90 ans dans l'île de Patmos, dans la suite des temps. Que le Seigneur marque votre vie. Que vous vous souveniez toujours où Dieu vous a rencontré. Vous aurez des temps faciles. Vous aurez des temps de bénédiction. Vous aurez des temps difficiles. Mais vous aurez des temps de victoire. Des temps de victoire. Je remercie Dieu de tout mon cœur de ce qu'il me reste moins à faire que j'ai fait. Et aussi pour vous, pour certains. Et pour d'autres, il vous reste encore beaucoup de temps à faire. Et si Jésus tarde à revenir, les hommes scientifiques, docteurs, dirent que dans cette génération, ils vont vivre jusqu'à 100 ans. Formidable. Formidable. Mais Dieu peut interrompre toute l'histoire du monde. C'est lui le maître. C'est lui le souverain. Et c'est lui qui nous permet de remporter la victoire. Je suis très heureux de marcher avec le Seigneur. Je suis très heureux de marcher avec le Seigneur. Et vous ? Et vous ? Vous n'êtes pas malheureux, on est heureux. La suite des temps, on les connaît. Tu sais, ô roi Pharaon, la suite des temps, nous connaissons. Dieu va nous multiplier. Lui qui avait fait un plan, il dit, faut que je fasse un autre plan alors. Pour vous exterminer. Mais Dieu est le maître de l'histoire. C'est le maître de l'avenir. Que Dieu vous bénisse. Et vous vous souvenez de Joseph. Ils ont bandé des flèches contre lui, les arcs. Et il restait ferme, parce que les mains du Tout-Puissant étaient sur lui. Demandez au Seigneur que les mains du Tout-Puissant soient sur vous, que l'onction de Dieu soit sur vous, et marchez de l'avant avec la parole de Dieu. La suite des temps, elle appartient à Dieu. Que son nom soit glorifié. Hallelujah. Si vous avez besoin de la grâce dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, si vous voulez lui donner votre cœur ou revenir à Dieu, levez-vous à votre place. Et on va prier pour vous. Gloire à Dieu. Far in Gethsemane. Priez le Seigneur vous-même. Demandez-lui sa grâce. Demandez-lui, dites-lui que c'est un Dieu d'amour. Merci de m'aimer tel que je suis. Merci de m'avoir gardé dans ta main puissante. Je veux tirer la flèche de délivrance, la flèche de victoire. Jésus, bande mes mains, mets tes mains sur les miennes et que le Seigneur vous bénisse. Restez debout. Si quelqu'un veut encore se lever ou pour s'engager dans les eaux du baptême, levez-vous. On va prier pour vous et avec vous.
Your righteous bitter lie, amen. Thank you, remain this man. I remind you, God. I want to praise, man.
Amen, Seigneur, notre Père, nous voulons te prier pour ces bien-aimés et nous te demandons une grâce particulière. Remplis-nous tous de ton amour, tous de ta grâce. Tu connais les besoins, tu entends les prières. Nous savons que tu ne fais de reproche à personne, que tu ne rejettes personne, que tu ne mets dehors personne. Mais tu accueilles la brebis, tu lui fais du bien par le baume de ton Esprit Saint. Fais du bien, Seigneur. Au nom de Jésus, nous lions les maladies, les puissances ténébreuses. Nous lions les démons au nom de Jésus. Nous lions toutes ces choses ténébreuses. Tu remportes les victoires, Seigneur. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. On dit ensemble merci pour le sang de Jésus qui m'a purifié de chaque péché. Bonne route, bon retour dans votre marche avec Dieu et pour les nouvelles victoires que vous avez remportées. On se lève ensemble et on chante « Nul n'est comme toi ».